Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Babel Pongo Massimango.
Alors que le mois des femmes tire sa référence, la première ministre met l'accent sur l'inclusion du genre dans la politique de la sécurité nationale. Judith Suminwa l'a dit hier à Kinshasa à la clôture d'un forum sur l'intégration des femmes au sein de l'armée et autres services de sécurité. Pour elle, les femmes ont un grand rôle à jouer tant dans la prévention que dans l'alerte ou la résolution des conflits. Au moins 2 morts, 10 civils pris en otage et plusieurs biens pillés. Bilan d'une nouvelle attaque rebelle ougandaise des ADF la nuit de dimanche à lundi à Makoko, Mutchange environ dans Mambasa en Ituri. Conséquence de ces attaques à répétition, plusieurs villages sont déserts. Leurs habitants errent dans la zone dans des conditions déplorables. La société civile demande au gouvernement et à la communauté internationale d'accorder à ce groupe armé autant d'attention qu'à l'FC-23. Le retrait des combattants de la F-123, justement soutenu par le Rwanda de plusieurs villages de Lubero, au Nord Kivu, et l'annonce du début des opérations militaires des FARDC-CO pour contraindre les FDLR au cantonnement. Il en a été question hier dans Dialogue entre Congolais. Dans Deck du jour, nous vous proposons quelques réactions des intervenants. Madame, Monsieur, bonjour. Le mois de mars, mois consacré à la femme, se termine aujourd'hui avec cet appel de la première ministre. Judith Suminwa s'est exprimée hier lundi à Kinshasa à la clôture du forum des femmes consacré justement à l'intégration des femmes au sein des FARDC, de la police nationale congolaise, de l'ANR, l'agence nationale de renseignement, de la DGM, la direction générale de migration et du conseil national de sécurité. Cette rencontre a été organisée par le groupe consultatif des femmes pour la réforme du secteur des sécurités en collaboration avec le ministère du genre, avec l'appui technique, logistique et financière de la MONUSCO. Elle a réuni des femmes issues de la société civile, des organisations féminines de défense des droits des femmes, ainsi que la ministre du genre, famille et enfants, Micheline Ombaé. Suivez les propos de la première ministre, chef du gouvernement, dans cet extrait choisi par Benjamin Moudoumbi.
Le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger est guidé par la ferme conviction que sans inclusion et intégration du genre dans la politique de sécurité nationale, il ne serait en aucun cas possible de parler de politique de sécurité crédible. De même, sans cette politique de sécurité inclusive et représentative, il est éhonté de parler de développement durable. Des esprits conservatoires me demanderont le pourquoi de l'intégration de la femme dans la future politique de sécurité nationale. Ma réponse est ferme et intransigeante. Les femmes ne sont pas de simples bénéficiaires de la sécurité. Elles en sont des actrices de première ligne, tant dans la prévention, l'alerte communautaire, la cohésion sociale, la médiation, la résilience que la reconstruction. Je ne peux clore mon propos sans saluer l'engagement des femmes congolaises dans la mise en œuvre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité.
La première ministre Judith Suminwa. Notez que malgré les problèmes que traverse la femme, des recherches sont toujours menées pour alléger sa souffrance, cas de l'organisation Baloba Kitchek. Cette structure de vérification des faits, en collaboration avec l'ambassade de Belgique en RDC, vient d'organiser une conférence à Kinshasa autour du thème « Culture congolaise et féminisme, vers des droits garantis et une autonomisation durable pour toutes les femmes et les filles ». Pour ce faire, chercheurs, journalistes, entrepreneurs, acteurs culturels, les membres de la société civils y ont croisé leur regard pour dépasser les idées reçues en cette fin du mois de la femme. Suivi des détails avec J.R. Kabamba.
Au cœur des échanges, la nécessité de relire la culture congolaise à la lumière des droits fondamentaux. Le féminisme n'est pas une guerre des sexes, mais une prise de conscience collective, a déclaré Mme Ange Kasongo, directrice de Baloba Kitchek, dans son monde des circonstances.
Culture congolaise et féminisme. Une thématique qui peut parfois susciter des débats, voire des résistances, ancrées beaucoup plus dans nos traditions et nos coutumes. Le féminisme, ce n'est pas la guerre du sexe. Pour nous, le féminisme, ce n'est pas renier nos valeurs. C'est reconnaître que la force d'une nation se mesure à la force de toutes ses composantes. Que tant que la moitié de notre population, nos mères, nos sœurs, nos filles, est freinée, sous-représentée ou victime de discrimination, notre Congo ne pourra jamais atteindre son plein potentiel.
Selon Mme Annie Maudit, féministe congolaise et activiste des droits des femmes, cette rencontre visait à sensibiliser et à promouvoir les pratiques positives de la culture, tout en refusant que la culture soit utilisée pour justifier l'injustice sociale et les violences faites aux femmes.
Ce que nous refusons, c'est que la culture soit utilisée comme un outil pour justifier les inégalités contre les femmes et les filles.
Notons que cette initiative de Baloba Kitchek rappelle que la culture, loin d'être un frein, peut devenir un véritable levier pour garantir les droits des femmes et bâtir une société plus équitable.
Et en ce moment, on se clôture ce mois, découvrant cette dame qui vient illuminer l'image de la femme. Il s'agit de Solange Kabedi-Odra, aujourd'hui directrice au sein de l'entreprise publique de transport Transco. Il faut reconnaître qu'elle est l'un des visages féminins les plus inspirants de cette entreprise. Diplômée en droit, Solange Kabedi-Odra gravit chaque échelon et grâce à un parcours fait de persévérance et de courage. Je vous propose de suivre son portrait inspirant que nous propose Grace Amsati.
J'ai débuté à Transco comme receveur dans un bus.
En 2014, après 10 années passées comme femme au foyer, elle ose un concours national. Sur 16 000 candidats, seuls 722 sont retenus. Elle obtient un poste de receveuse, l'un des métiers les plus exigeants de la société. S'élever à 2 heures du matin, faire face à des centaines de passagers par jour, apprendre la rapidité et surtout la résilience.
Lors de la formation, on vous apprend la maîtrise de soi parce que les clients Transco, ils sont géniaux. Ils sont provocateurs, ils sont nerveux. Ils taquinent le chauffeur, ils taquinent le receveur.
Grâce à son travail, Solange Kabedi monte rapidement. Gestionnaire aux ressources humaines, assistante du directeur général, puis en 2023, première femme directrice administrative des Transco. Elle deviendra ensuite directrice générale adjointe, puis directrice générale par intérim.
Mon plus grand défi a été de prouver que je suis compétente.
Dans un environnement où les clichés persistent, elle devient un modèle pour les femmes de l'entreprise. Elle encourage les jeunes à commencer quelque part, à se former, à ne jamais cesser d'apprendre.
Il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de sautes gens.
Des receveuses à la tête des Transco, Solange Kabedi prouve qu'avec engagement, compétence et détermination, tout est possible.
Parlons sécurité à présent. Au moins 2 morts, des civils pris en otage et plusieurs biens à piller. Bilan d'une attaque rebelle des ADF la nuit dernière dans les localités de Makoko, Muchanga et leurs environs à une dizaine de kilomètres de Mambasa Centre en Ituri. À cela, il faut aussi ajouter des milliers d'habitants qui ont fui les zones attaquées ainsi que les villages situés le long de la route nationale numéro 4, notamment vers Mambasa et Bahaha. Face donc à l'intensification des violences, les structures citoyennes locales demandent au gouvernement d'accorder une attention particulière à ce groupe armé, au même titre que M23. Isaac Raymond nous fait le point.
La dernière attaque a été signalée lundi vers 5h du matin au village de Makoko, situé à 11 km de Mambasa, dans une zone forestière proche de la route nationale numéro 4. Selon la société civile locale, les assaillants ont ouvert le feu sur des habitants surpris dans leur sommeil. Au moins 2 corps ont été retrouvés. Plusieurs personnes ont été prises en otage, tandis que d'autres ont été blessées, laissant des traces de sang sur leur passage. La veille, un autre groupe des ADF avait fait incursion dans les villages de Muchanga, ainsi qu'à Khartoum, où plusieurs biens ont été emportés. Ces attaques ont provoqué déplacement de la population dans une dizaine de localités, y compris celles ciblées et d'autres situées le long de la RN4. Dans la zone, l'accès aux champs est devenu difficile, voire impossible pour certains habitants. Les trafics sur la route nationale numéro 4 restent également très timides. Le conseil provincial de la jeunesse en Ituri indique que les ADF ont déjà fait plusieurs victimes dans les territoires de Djougou et Mambasa, malgré les efforts des FARDC. Son président, Deogracias Bungamuzi.
Depuis trop longtemps, la population meurt. Nous interpellons directement le gouvernement central. La menace des ADF ne peut être reléguée au second plan. Ce phénomène doit être traité comme une urgence nationale et inscrit clairement dans les priorités internationales même.
Signalons que l'intervention des FARDC ce matin a permis de limiter les dégâts dans la zone. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Direction le Nord Kivu, cette fois, ce ne sont pas les ADF qui ont fait fuir la population de Kamango, mais plutôt un incendie qui a ravagé leur marché le matin d'hier lundi. Des boutiques et maisons de commerce sont parties en fumée dans ce lieu de négoce situé à environ 80 km au nord-est de la ville de Beni. Prise de panique, la population a fui le milieu croyant à une incursion des rebelles des ADF. Les autorités ont ouvert une enquête, elles appellent les habitants au calme. Marc Marofimbo nous donne plus de précisions.
La société civile locale indique que le feu est parti d'une boutique aux environs de 4 heures, c'est lundi matin. Les flammes ont rapidement embrassé d'autres boutiques et maisons de commerce, dont certaines étaient construites en plâche. Ce n'est que grâce aux efforts des jeunes du centre commercial de Kamango que le feu a pu être maîtrisé. La population environnante, croyant à une incursion d'hommes armés, a déserté la place, ajoute Majela Abissi, président de la société civile de la chefferie de Watalinga. Les autorités locales et les services de sécurité, arrivés sur le lieu du drame, ont ouvert une enquête. Le bilan provisoire fait état d'au moins 8 boutiques et 2 maisons de commerce réduites à cendres. Selon Pascal Sambili, chef de la chefferie de Watalinga qui supervise l'enquête, l'incendie serait parti d'un dispositif électrique non protégé dans l'une des boutiques du marché central de Kamango. Il appelle la population qui a fui les milieux à rentrer chez elle. Notez que cet incendie est le deuxième enregistré dans cette zone frontalière avec l'Ouganda qui ne dispose d'aucun dispositif anti-incendie. Beni Marc Marufimbo, Radio Okapi.
Nous en venons à cet appel de la société civile de Kipese, une localité située à une vingtaine de kilomètres de Lubero centre, toujours au nord Kivu. Elle recommande à la population d'éviter tout discours de haine et surtout de ne pas accéder au site abandonné par l'AFC 123 dans plusieurs localités du territoire de Lubero. Cet appel a été lancé le week-end dernier à la suite du retrait de troupes de cette rébellion et de l'armée rwandaise dans la zone. Selon cette structure citoyenne, ces sites abandonnés pourraient contenir des engins explosifs ou du matériel militaire abandonné, ce qui expose ainsi la population à de graves dangers. Écoutons les explications du président de la société civile de Kipese, Jackson Mumbere Kisiona, dans cet extrait proposé par Martial Papi Mukeba.
Les cas désertés et certaines habitations laissées constituent à ce jour des zones à haut risque. Ces lieux peuvent contenir des engins explosifs non désamorcés, des bombes artisanales ainsi que des munitions abandonnées. Toute tentative d'accès, de manipulation ou même de curiosité dans ces zones expose à des conséquences dramatiques. La société civile noyau de Kipese constate avec regret des comportements à risque au sein de la population, notamment les visites non encadrées de ces sites, la montée des discours de haine ainsi que certains actes de pillage et de troubles à l'ordre public. Elle appelle à une prise de conscience collective, la société civile noire de Kipese recommande strictement à la population d'éviter toute visite des chats, des cas, des maisons abandonnées.
Retour ici à Kinshasa, le ministre de la Communication, lui, s'est penché sur la salubrité médiatique. Pour Patrick Mouyaya, ce problème ne concerne pas seulement le nombre de médias, mais d'abord la qualité de ceux qui exercent le métier. Il l'a dit au cours d'un atelier organisé hier lundi dans la capitale. Thème de ses assises, repenser l'information, l'intelligence artificielle et l'éducation numérique en temps de crise pour les 5 prochaines années. Que retenir, John Chibobwa?
Les professionnels des médias, les acteurs de la société civile, les organisations des plateformes numériques et les experts techniques unissent leurs forces dans la lutte contre la désinformation en temps de crise. Prenant la parole, le président de l'Union nationale de la presse congolaise a montré les conséquences de la désinformation. Kamanda wa Kamanda Muzembe.
La désinformation alimente les conflits, fragilise la cohésion sociale et compromet les efforts de paix. Elle manipule les consciences, attise des tensions et dans certains cas recrute pour la guerre.
José Barouani, professeur en droit à l'UPC, estime que le droit international reconnaît la désinformation comme une arme de guerre.
La désinformation est bien souvent mise dans l'optique de créer la confusion dans les camps ennemis et de pousser à commettre des fautes.
Le ministre de la Communication a invité le participant à lutter contre la désinformation. Patrick Mouyaya.
Nous tous, nous devons adopter des bons réflexes. Le premier bon réflexe, c'est de ne pas prendre pour acquis ce qui est dit tout de suite sur les réseaux sociaux. Parce que dès le jour, le plus important, ce n'est pas de prendre la parole en premier. Le plus important, c'est de prendre la parole pour venir dire des choses qui sont vraies et efficaces.
C'est ce mardi 31 que cet atelier sera clôturé.
Autre actualité, l'arrêt prolongé des travaux routiers sur l'axe Gambela-Asusa dans la commune de Ngiringiri perturbe le quotidien des habitants de cette partie de la capitale. Entre difficultés de circulation et hausse du prix de transport, la situation devient de plus en plus préoccupante et tout cela sur fond de manque de financement de chantier. Magloire Landou s'est rendue sur place. Son reportage.
Cet arrêt de travaux suscite incompréhension et frustration chez les habitants, notamment le conducteur de transport en commun, contraint d'augmenter le frais de transport. Selon plusieurs témoignages recueillis sur place, cette voie secondaire joue pourtant un rôle essentiel. Sa fermeture complique la circulation et pénalise l'économie locale.
La difficulté est énorme car cette route nous facilitait beaucoup la vie. C'était un raccourci qui permettait d'accéder rapidement à plusieurs communes. Depuis l'arrêt des travaux, nous sommes contraints de faire un long détour et le prix du transport a également augmenté à cause de ces détours. Jusqu'à présent, nous ne comprenons toujours pas ce qui retarde les travaux.
Les travaux sont à l'arrêt depuis le mois de novembre. Pendant ce temps, au lieu de ranger, ils viennent déverser ici des immondices provenant d'ailleurs. Nous lançons un appel aux autorités afin que les responsables de la réhabilitation de cette route interviennent dans le plus bref délai.
Face à cette situation, le regard se tourne vers les responsables du chantier. Contactée, une source proche de l'entreprise en charge de travaux évoque un problème de financement. En attendant une éventuelle reprise, les habitants de Liringiri continuent de subir les conséquences de cet arrêt, espérant une solution rapide des autorités.
Actualité internationale.
Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a appelé hier lundi son homologue américain Donald Trump à stopper la guerre au Moyen-Orient. Je dis au président Trump, vous seul pouvez mettre fin à la guerre dans le Golfe, a déclaré le leader égyptien en marge du Egypt Energy Show 2026, événement consacré aux questions énergétiques. Je m'adresse à vous directement en mon nom, au nom de la région et du monde entier, au sujet des graves conséquences qu'entraînerait la poursuite de cette guerre. S'il vous plaît, monsieur le président, aidez-nous à mettre fin à cette guerre. Vous en êtes capable, a-t-il poursuivi. AfricaNews.fr rappelle qu'aux côtés de l'Arabie Saoudite, de la Turquie et du Pakistan, l'Égypte a pris part dimanche à des pourparlers à Islamabad visant à trouver une voie vers la paix. Cela alors que ce conflit est désormais entré dans son deuxième mois.
L'invité.
Les combattants de la F-123 soutenus par le Rwanda se sont retirés de plusieurs villages du territoire de Lubero, Nord Kivu, la nuit de lundi à mardi 24 mars. Pendant ce temps, les FARDC ont annoncé dimanche le début des opérations militaires pour contraindre les éléments des FDLR au cantonnement. Cette question a fait l'objet des échanges entre les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier lundi. On les écoute au micro de Guimaté.
Juvenal Monubo Mumbi, vous êtes avocat, cadre de l'Union sacrée de la Nation, vous êtes député national honoraire et analyste des questions de l'Est et de la RDC. Comment vous expliquez ces deux faits qui interviennent presque au même moment, le retrait des combattants de l'AFC-M23 de certaines localités du Grand Nord du Nord Kivu et l'annonce par la FRDC des opérations militaires contre les FDLR?
C'est dans la suite de la déclaration de Washington. Il y a une déclaration du 18 mars 2026 parce que les partis se sont rencontrés, c'est-à-dire les délégués de la RDC et du Rwanda, pour évaluer la mise en œuvre des accords de Washington. Et puis, il y a eu au moins trois points dans cette déclaration. C'était une courte déclaration, un communiqué final, si on peut le dire comme ça. Il y a d'abord la désescalade, c'est-à-dire il faut désamorcer la crise, baisser les tensions. Et puis, le désengagement élevé des mesures de défense du Rwanda. Et puis, il y a la lutte contre les FDLR. Raison pour laquelle, s'agissant du désengagement, il y a ces mouvements qu'on observe. Et par rapport à la lutte contre les FDLR, il y a cet engagement pris par le gouvernement congolais de lutter contre les FDLR.
Peut-on affirmer que c'est le début effectif de l'application de l'accord de Washington?
Il faut quand même admettre qu'il y a une pression internationale. C'est une pression de Washington, hein, des États-Unis, notamment sur le Rwanda et la M23. Et c'est dans ce sens-là. Mais l'objectif de la pression, ce n'est pas de la pression pour qu'ils se retirent et que tout s'arrête par là, quoi. Moi, je vois beaucoup plus une pression pour permettre de revenir sur la table des négociations et de conclure, faire la paix définitive. Parce que c'est différemment interprété. Il y a ceux qui pensent que, voilà, les Américains exercent la pression pour que le Rwandais se retire, pour que l'AM-23 qui mettent fin à leur lutte, et à la fin ils ne pensent pas qu'on peut conclure par un accord de paix. Moi, je crois que tout ça, c'est un prélude effectivement d'un atterrissage en douceur du processus de paix.
Merci. Patient Bachombe Matabishi, vous êtes membre de la société civile et vous êtes coordonnateur de la plateforme dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement du code RDC. Et c'est quoi votre compréhension du retrait de l'AFC-M23 de certaines localités du Nord Kivu et aussi cette annonce par les FRDC de la traque contre les FDLR?
La manière dont ça se fait, ça inquiète plus d'un. Des gens qui ont nié leur présence, mais qui commence à faire des mouvements nocturnes, aucun mécanisme précis n'a été mis en place, aucune vérification n'a été mise en place, que ce soit la MONUSCO, que ce soit la communauté internationale, même le médiateur, on ne peut pas nous dire aujourd'hui, à l'heure où nous tenons cette émission, combien de militaires rwandais ont franchi la frontière. Et donc, ça doit nous interpeller.
Et surtout que ça semble avoir pris des cours tout le monde.
Mais évidemment, ça doit nous interpeller et nous voulons alerter le médiateur, le gouvernement congolais et même les partenaires internationaux que cette question doit être prise au sérieux. J'aurais voulu quand même que la MONUSCO, ça devrait même être une tripartite entre l'État congolais, la MONUSCO et le médiateur américain. pour dire du jour le jour ou par semaine combien de militaires ont franchi. Le risque, c'est lequel? Le risque, c'est que ces militaires rwandais peuvent être dilués dans la population.
Merci Henri Pacifique Mayala, vous êtes coordonnateur du baromètre sécuritaire du Nord Kivu. Et qu'à vous inspire ces retraits de l'FCM23 et les opérations annoncées contre l'FDLR?
Je pense que c'est naïf d'une certaine façon de célébrer avant de tout comprendre, dans le sens où est-ce qu'il s'agit bien des pressions américaines ou pas. Après aussi, je pense qu'il faut toujours garder à l'esprit que le M23, c'est une entité qui, dans une certaine mesure, s'est reconstruit sa propre agence, sa propre capacité de subsister en dehors du soutien et de l'accompagnement du Rwanda.
Et donc vous voulez dire que les troupes du M23 pourraient tenir, pourraient résister, même si l'armée rwandaise quittait la RDC aujourd'hui?
Dans une certaine mesure, lorsqu'on regarde la trajectoire et l'historique récente sur quand est-ce que nous commençons à documenter la présence physique des troupes, parce que lorsqu'on parle aussi des mécanismes de défense du Rwanda, il ne s'agit pas que des troupes présentes sur le sol du Congo. La guerre, c'est aussi l'échange de l'intelligence, les informations, c'est aussi l'appui en termes de technologies aujourd'hui. Toute la zone orientale du Congo, 80 kilomètres à l'intérieur, je pense que c'est une zone qui nous échappe, dans le sens où elle est brouillée par la technologie rwandaise.
Vous pourrez trouver l'intégralité de ce numéro de dialogue entre Congolais sur www.radiookapi.net, également sur toutes les plateformes numériques de Radio Okapi. Merci de l'attention que vous avez accordée à ce journal. Il a été préparé par Lievin Bwinga, mis en onde par Jean-Claude Ossiala. Passez une très bonne journée.